cinquième jour du Jungle Tour et nous sommes le 4 juillet et nous sommes à Saint-Omer.
Voilà, ben bonjour. Donc moi je suis Brigitte. Je m'occupe des migrants depuis 4 ans à peu près. Donc je suis infirmière et c'est comme ça que j'ai voulu m'occuper des migrants. Bon, alors à Saint-Omer, il faut déjà savoir que ce sont des Afghans qui vivent donc dans un fossé, on va dire entre deux frontières, entre Tattangam et Longness. Ils sont aux alentours de 20. Donc des Afghans principalement des garçons. Il y a très rarement des femmes. De temps en temps quand même pas mal de mineurs. Donc au niveau du bénévolat, donc on est bon, le nombre est à peu près bon, 10-15, et on est multi-associatif, c'est-à-dire qu'on vient aussi bien de la Croix-Rouge, du Secours catholique et d'Emmaüs.
Voilà, on entend, on est dehors et puis il y a un orage qui arrive, donc il faut pas s'inquiéter, c'est le coup de tonnerre et quand il pleuvra, on rentrera.
Bon, ben voilà, donc l'orage vient nous perturber. Et me perturber aussi. Donc la Croix-Rouge, quelques bénévoles de la Croix-Rouge, je répète, donc quelques bénévoles donc du Secours catholique et Emmaüs en fait qui nous aide aussi au niveau de tout ce qui est logistique, on va dire. Alors, donc comment ça arrange notre bénévolat? Donc c'est-à-dire que 3 jours par semaine, donc ça c'est au niveau. Donc le mardi matin, le jeudi matin et le samedi matin, donc avec Emmaüs, donc on rassemble de la nourriture pour les garçons. C'est-à-dire que bon, ça, bon, c'est des légumes, de l'huile, des pommes de terre, du riz, le bois aussi, parce qu'ils ont besoin de bois pour faire leur cuisine. Et on va leur porter donc le matin. Il me perturbe encore une fois. En fait, il y a quelqu'un qui me perturbe. Ah oui, puis des serviettes de toilette. Mais ça vient d'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est pour le matin. Et il y a des douches d'assurés. Donc le mardi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Donc là, ça se limite à 8 personnes parce qu'on peut prendre que 9. Dans la camionnette, on peut être que 9 en tout. Donc on peut en prendre que 8. Et en plus, notre ballon d'eau chaude n'assure pas pour plus. Donc au niveau des douches, ils peuvent profiter donc de la douche, ils peuvent changer leur linge parce qu'en fait, donc comme il y a un centre de tri aussi à Emmaüs, il y a des joggings, des t-shirts, des pulls qui sont mis à leur disposition. En même temps, on leur lave le linge parce qu'on a une machine, un sèche-linge. Et bon, comme ça, bon, ils retrouvent le linge tourne un petit peu. Donc en même temps, c'est dans un chalet à Emmaüs. Donc on appelle ça le chalet. Au chalet, bon ben c'est convivial et on offre du thé, on s'occupe de leurs bobos. Donc comme je disais, moi je suis infirmière, mais je m'occupe pas que de leur santé. En fait, quand on est infirmière, on s'occupe donc des bobos, mais des bobos du corps, de l'esprit, de tous leurs bobos en fait, hein, de tout ce qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est pour ça qu'on a souvent enfin que j'ai un bon contact avec eux, quoi, pour leur apporter du réconfort. Voilà, donc après, bon, bah, s'ils sont malades, on les conduit, c'est la mission du bénévole, hein, donc à l'hôpital, chez le dentiste. On veille à remplir un petit peu quand ils nous demandent des choses, quand c'est dans nos possibilités à les aider, quand c'est au niveau, donc, il n'y a pas très longtemps, le camp a brûlé entièrement, sauf la mosquée et la cuisine qui est restée, donc il a fallu donc. Reconstruire ce camp. Donc c'est les garçons qui construisent en général, mais il faut leur fournir du matériel et grâce à Emmaüs, quand même, on a quand même pas mal de possibilités d'avoir du matériel.
Et quand tu dis les garçons, ce sont les
Nous
réfugiés,
avions les
donc
réfugiés.
principalement
Oui,
afghans qui
oui.
sont là, hein.
Voilà, donc c'est toujours les réfugiés. Donc de toute façon, ils sont super contents, ils viennent avec nous, ils sont contents de participer en fait aux opérations, nous aider. Voilà.
On va peut-être rentrer.
Il pleut.
Donc parmi les gens qu'on voit, c'est des gens qui sont surtout très jeunes, essentiellement des Afghans, mais pas exclusivement. Quand je dis très jeunes, c'est même, on voit des tout petits, des enfants qui ont, tout à l'heure, on a vu des gamins qui avaient quoi, 5 ans, 4-5 ans. La fois l'an passé, quand on est venu, il y avait même un bébé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les gens qui viennent? D'abord, combien de temps, donc des gens très très jeunes, qui arrivent d'où et combien de temps ils restent?
Alors, donc, il y a des gens très jeunes. Alors, combien de temps ils restent? Ça, c'est difficile à dire. Parce qu'en fait, ils peuvent rester aussi bien 2-3 jours. Après, je ne les vois plus. Comme ils peuvent rester... bon, là, j'en vois un qui a du mal à passer. Parce que justement, il me racontait tout à l'heure qu'il s'est retrouvé en Belgique au lieu d'être en Angleterre. Lui, je pense que ça fait quand même 3 semaines qu'il est là. Donc en fait, le tour change. Et en fait, après, des fois, on ne les voit plus. Et un mois après, on les revoit parce qu'en fait, ils nous racontent donc l'histoire. Bon, par exemple, qu'ils ont été en centre de rétention en Angleterre, justement. Là, j'ai une histoire d'un jeune, donc c'est Azlat, qui était ici à Tattenham, qui a réussi à passer. Donc il a 16 ans. Il m'a même appelé d'Angleterre pour dire que je suis à Londres, Brigitte, je suis contente pour toi. Et là, il y a un mois de ça, je revois mon Azlat, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il m'a expliqué donc, qu'il a été en centre de rétention en Angleterre. De là, l'Angleterre l'a renvoyé en Italie, parce qu'en fait, en Italie, oui, il s'était déclaré majeur en Italie. Donc, en Italie, et de l'Italie, il revient donc en France. Donc après, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. J'ai un exemple aussi de Saïd qui a voulu donc passer, qui s'est fait prendre donc à Calais. Il est allé en centre de rétention à Coquelles. Donc le centre de rétention m'avait appelé pour dire qu'il était là parce qu'il avait oublié son sac et puis ses papiers au camp. J'ai réussi à contacter donc Saïd en centre de rétention avec la cabine téléphonique. Saïd me dit donc je suis expulsé vendredi, c'est pas grave, tu n'as pas le temps de me ramener les papiers, mais pas de problème, je reviens tout de suite. Le samedi soir, donc il est expulsé le vendredi matin en Italie, le samedi soir j'ai un appel, il est 8h du soir, Brigitte, je suis à Dunkerque. Donc comme quoi, c'est des allers-retours inutiles, et il y en a beaucoup comme ça en fait. Il y a aussi, moi j'ai un autre exemple, alors là j'en ai pas parlé non plus à personne, c'est qu'en revenant, en allant aux douches, donc c'était pas moi qui conduisais, c'est un autre bénévole, donc il avait les migrants avec lui, il a eu un contrôle de la gendarmerie, contrôle de la gendarmerie, tout le monde... s'appelle le bénévole avec, hein, parti à la gendarmerie. Donc le motif, c'était que y en avait 6 qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont été arrêtés. Et donc en fait, on rigole avec ça, c'est parce qu'en fait, les 6 qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité se sont retrouvés en centre de rétention. Du centre de rétention, ont été envoyés en Italie parce qu'en fait, la majorité avait des papiers italiens. Et 15 jours après, ils étaient tous revenus pour repartir à la douche avec la ceinture de sécurité cette fois-ci. D'accord, maintenant, quand ils montent dans la camionnette, on leur dit « ceinture de sécurité for security belt for everybody, sinon Deport Center ». Voilà.
Et beaucoup de gens sont en Italie. Pourquoi en Italie? C'est surprenant. Des gens qui viennent d'Afghanistan, qui sont expulsés en Italie.
Bon, en fait, la plupart de ceux que je rencontre au camp, d'abord, ils ont des papiers italiens, donc, ou alors des empreintes en Italie, mais je ne pense pas qu'ils soient expulsés parce que, là, je peux me tromper, parce qu'ils ont des empreintes en Italie, mais la plupart ont des papiers italiens. En fait, je suppose qu'ils ont des papiers italiens parce que, donc déjà, l'Italie est avant la France dans le voyage, donc peut-être qu'ils demandent l'asile en Italie. Bon, je ne sais pas, ça c'est leur raison à eux, hein. Ou bien alors ils ont des empreintes en Italie, de fatigue ici, d'attendre en France, de ne pas réussir à passer en Angleterre, ils vont demander l'asile en Italie, donc ça c'est un point de vue. Et donc ensuite, je ne sais pas. D'accord, donc en fait, ils me disent en fait, quand ils ont obtenu leur papier en Italie, souvent on leur dit, ben, de toute façon en Italie il n'y a pas de travail, donc on leur fait comprendre qu'en fait ils peuvent quitter l'Italie, en fait, parce que de toute façon en Italie ils ne trouveront pas de travail. Mais c'est très difficile en fait. En plus, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas d'œuvre. Enfin, comment on dit Caritas, mais c'est parce que comment. Il n'y a pas. D'associations caritatives pour les aider une fois qu'ils ont leur papier. Enfin, en France, il y a plus d'aide à ce niveau-là. Voilà.
Ok, donc ils se retrouvent en France pour aller en Angleterre.
Voilà. De toute façon, déjà en Italie, ils se retrouvent déjà dehors une fois qu'ils ont leur papier. Ils n'ont pas d'hébergement. Donc après, bon, le but pour eux, c'est d'aller en Angleterre pour essayer de trouver du travail, pour avoir de l'argent. Voilà.
Et tout à l'heure, on était donc hors micro, on parlait de la... relations avec les médias et des relations notamment des jeunes par rapport à l'image. Quand je dis des jeunes, c'est parce que les gens qui sont là sont essentiellement des gens très jeunes, et tu donnais une explication très simple et très évidente pourquoi les gens de la jungle n'ont pas envie d'être pris en photo ou d'être filmés.
Oui, en fait, ils n'aiment pas tellement le regard de l'autre, parce qu'en fait, souvent, quand ils sont dans la jungle, donc en fait, je sais pas, vous avez vu, il y a de la boue, hein, donc souvent, ils ont leurs chaussures sales, ils ont leurs pantalons sales, et ils n'aiment pas cette image-là, en fait, quand on les regarde avec ce pantalon sale, parce qu'ils disent, nous aussi, on peut être beau, mais on n'a pas la possibilité, donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, en fait... le regard de l'autre vis-à-vis, ils aimeraient bien être comme tous les jeunes, c'est des jeunes, hein, des ados, donc comme les nôtres en France. Donc ils aiment bien être bien habillés, qu'on les regarde parce qu'ils sont beaux. Voilà. Et pour les médias, moi je pense que c'est bien aussi de se faire un petit peu oublier, quoi, des fois. Voilà, pour éviter les problèmes peut-être après qui peuvent ressurgir après. Voilà.
Voilà, donc il faut dire que tu as, si une photo est prise, la photo elle peut être vue. Par n'importe qui, n'importe où, et sans qu'on puisse maîtriser sur n'importe quelle chaîne internationale. Et ça peut poser des problèmes, évidemment. Cette jungle, est-ce que tu peux... Donc cette jungle, il ne faut pas dire jungle, mais jungle. Et est-ce que tu peux nous la décrire?
Oui, d'accord. Donc en fait, d'abord pour y arriver, donc il y a un chemin de terre. Bon, maintenant il y a des cailloux, c'est bien, on a moins les pieds mouillés. Ensuite, donc en fait, ils vivent dans un... On va dire c'est un grand fossé. Donc ce sont des abris. Alors au départ, ce sont des tentes qui sont rebâchées et puis avec des passages aussi avec des palettes en fait. Alors il y a un endroit, c'est quand même organisé, hein. Il y a une cuisine, on va dire, avec un feu parce qu'ils font leur cuisine donc au feu de bois. Une cuisine, une mosquée pour la religion. Il y a un endroit où ils peuvent prendre des douches, bien sûr, à l'eau froide, parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas de point d'eau pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de point d'eau donc à la jungle. Ils doivent aller chercher l'eau à 2 km de là, donc au cimetière, avec une petite charrette et des bidons. Bientôt, on va avoir une tonne à eau quand même que le Secours catholique nous a offert. Donc voilà, il y a une mosquée, il y a des tentes, il y a de la boue, beaucoup de boue, il y a des chats pour manger les rats peut-être, on se dit, il n'y a peut-être pas trop de souris pour ça. Et ils stockent aussi leur nourriture donc, sur des étagères et aussi dans une petite tente, ils ont mis une réserve de nourriture. Voilà, c'est tout ce que je vois à peu près à dire. Après,
Oui, parce que quand on voit ça de l'extérieur, d'abord nous quand on est entre guillemets étrangers, bon, on n'est pas entré, on l'a vu de l'extérieur, et c'est quand même assez impressionnant. Un fossé et la boue.
Et là, pourtant, quand tu es venu la voir, elle était propre, parce que la semaine dernière, ils ont fait du grand nettoyage, et ils ont tous mis la main à la pâte, comme on dit. Ils ont vidé des tonnes de poubelles, ils ont tout nettoyé, ils ont lavé les palettes, en fait, qui servent de plancher pour la cuisine. Voilà, donc cette fois-ci, vous l'avez vu dans de bonnes conditions.
Et tu voulais aussi nous parler donc d'un jeune qui est passé dans cette jungle et qui, lui, n'a pas été en Angleterre, mais pour qui les choses se passent pas si mal maintenant ici en France et qui a fait un bouquin.
Voilà, donc je voulais vous parler de Bilal. Enfin, je vais l'appeler Bilal, mais son nom d'auteur, c'est pas Bilal. Que j'ai rencontré donc à Tattenham. Il était mineur à l'époque, parce que maintenant, il a 18 ans. Et il a écrit un livre en collaboration avec Lisa Vitouri. Et donc, le titre, c'est « Je suis Pashtoun d'Afghanistan ». C'est aux éditions Le Cygne. Donc, c'est un livre écrit par Lisa Vitouri et Nouri Khan Zazaï. Donc il parle en fait de son voyage, de son départ d'Afghanistan, de son pays, de tout son voyage qu'il a fait ici, donc en Europe, jusqu'à l'arrivée ici à Calais, où il s'est trouvé, aux environs de Calais, donc où il s'est trouvé déprimé. De là, il est reparti donc dans la région parisienne. Il a rencontré donc Lisa, et c'est un livre très beau à lire. C'est une histoire écrite à deux mains, et c'est une histoire d'amitié un petit peu improbable entre cette dame qui a plus de 60 ans et donc Nouri Khan qui a donc 15 ans ou 16 ans à l'époque quand ils se sont rencontrés. Donc maintenant, en fait, c'est aussi un message d'espoir, parce que maintenant, il fait des études de cuisinier, il a son statut de réfugié, et donc voilà, pour lui, il est heureux. Et c'est un livre à lire, voilà.
Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais la façon dont on parle, j'ai presque envie de le recommander avant même de l'avoir lu.
Voilà, puis j'aimerais bien en fait qu'après donc Nourikane vienne ici donc dans la région pour parler de son livre avec Lisa. Et à ce moment-là, ben faudra qu'on le dise à plein de monde pour qu'on vienne l'écouter, et puis il faut acheter son livre parce qu'il va être heureux avec ça. Voilà.